Bonjour à tous, vous êtes sur FL Radio. Vous nous avez écoutés, vous nous avez aimés, vous nous avez podcastés. Bienvenue dans Sois Sonore, saison 3, l'émission qui s'évertue à faire découvrir le quotidien des infirmiers. Aujourd'hui, c'est Julie et Marie, étudiantes en troisième année d'études infirmières à Armentières, qui vont aller à la rencontre de Gaëlle, infirmière conseil en diabétologie. Ouvrez grand vos oreilles, mettez vos écouteurs, Sois Sonore, c'est parti. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Laurent, bonjour Julie, bonjour Marie.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité et de partager ce moment avec vous.
Je peux vous proposer un coca ou peut-être une meringue?
Non, ça va aller, merci beaucoup.
Julie, première question.
Alors avant de plonger dans le cœur de votre métier, est-ce qu'on peut faire un peu connaissance?
Bien sûr, donc, je suis Gaëlle, je suis infirmière depuis 2008. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôpital au sein d'un service de soins continus et diabétologie pour me tourner en 2017 vers la prestation de santé.
Ok.
Donc au juste, c'est quoi une IDE conseil?
Une IDE conseil, c'est une infirmière qui travaille dans la prestation de santé. Donc un prestataire de santé en France, c'est un organisme privé qui va permettre aux patients d'avoir des soins à domicile tout en étant en coordination totale avec un établissement de santé. C'est-à-dire que l'infirmière conseil a pour rôle de faire une jonction entre l'hôpital, le prescripteur, la prescription médicale bien sûr, et le patient au domicile.
En fait, qui vous appelle ?
Qui nous appelle ? Donc des centres initiateurs avec qui on travaille, donc principalement des diabétologues pour ma part. Un prestataire de santé, il faut savoir qu'il y a plusieurs branches, c'est-à-dire qu'un prestataire de santé peut suivre des patients avec des problèmes, par exemple, d'assistance respiratoire, de perfusion. Et en fait, il y a des services au sein de ce prestataire qui permettent d'avoir des infirmières compétentes, par exemple, en diabétologie pour ma part, des infirmières qui suivent que la partie respiratoire ou des infirmières de perfusion. Et en fait, chaque secteur prend en charge la pathologie qui est demandée.
D'accord. Et est-ce que du coup, il faut une spécialisation ou une formation complémentaire pour exercer ?
Alors, il ne faut pas forcément de spécialisation. En revanche, les 10 années passées au sein d'un service de diabétologie m'ont vraiment permis d'acquérir des automatismes pour après être autonome, pour pouvoir recevoir une prescription d'un établissement de santé et aider le patient à être autonome et à suivre cette prescription à domicile. Le changement par rapport à l'hôpital, c'est que l'infirmière prestataire est toute seule au domicile du patient et toute seule en lien en fait avec l'établissement de santé. Donc du coup, les 10 ans à l'hôpital, ça permet vraiment une autonomie pour pouvoir mener à bien le projet du patient qui doit être personnalisé. Et je reviens sur votre question de base qui était, est-ce qu'il faut forcément une formation spécifique? Je dirais l'expérience fait la formation, mais de plus en plus, on essaye de se former et de se mettre dans une démarche d'éducation thérapeutique. Donc pour ça, il y a un DU éducation thérapeutique qu'on peut suivre également pour pouvoir être performant.
Et vous avez réalisé cette formation, enfin ce DU?
Alors pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé ce DU, mais nous sommes toutes, au sein de mon prestataire, nous sommes toutes dans la démarche de formation pour pouvoir avoir cette formation continue au sein du prestataire et aussi avoir accès à d'autres formations spécifiques en diabétologie.
Votre entreprise s'appelle, on parle d'entreprise?
Oui, c'est une entreprise de soins privés.
Elle se situe où ?
Elle se situe sur l'île, donc il y a plusieurs prestataires. Il y a plusieurs prestataires de santé. Chez certains prestataires, une infirmière va faire et de la perfusion, et de la nutrition, et des pansements, des prises en charge de pansements, et de l'insuline. Au sein de mon prestataire que j'ai choisi, nous avons la chance de pouvoir faire que de l'insuline pour ma part. C'est-à-dire qu'en fait, mon activité est concentrée sur l'insulinothérapie par pompe. Donc tous les patients qui sont mis sous pompe passent par ce prestataire, ont forcément une infirmière qui est dédiée en insuline, qui ne fait pas de perfusion à côté.
D'accord. Donc si je reprends ce que vous avez dit, vous êtes bien à domicile des patients?
Oui.
Vous n'avez pas de cabinet à vous?
Non, nous avons plusieurs agences sur les Hauts-de-France.
D'accord. Et au niveau du public que vous accueillez, donc, il y a tous les types de diabète?
Alors, il y a tous les types de diabète de type 1, diabète de type 2. Il y a de la pédiatrie, il y a des adultes, voilà. Et du coup, le rôle, c'est vraiment à l'infirmière de savoir se mettre à la disposition des attentes du patient et du prescripteur pour pouvoir essayer de faire une formation personnalisée pour le patient. C'est-à-dire, le patient, il peut être autonome pour une utilisation de la pompe de manière globale. D'autres patients vont être plus demandeurs, vont être autonomes pour plus de choses sur la pompe. Et vraiment, c'est à l'infirmière de faire un recueil de données et savoir ce que le patient est capable de faire, ce que le patient doit savoir faire pour être en sécurité et au besoin. Par exemple, je repense à la pédiatrie, pouvoir former des infirmières libérales de cabinet externe, formées à la pompe pour que l'infirmière libérale puisse aider quand c'est de la pédiatrie et qu'il y a des interventions à l'école, par exemple. En plus des parents, bien sûr.
Super, ben merci à vous pour tous ces éléments. Au niveau des entretiens, donc c'est vous qui allez chercher les patients, c'est eux qui viennent vers vous.
C'est
un entretien d'accueil.
Oui, donc en fait, du coup, je reçois une demande, par exemple, tel patient va être mis sous pompe à telle date. Donc moi, je contacte le patient, je fais un recueil de données. Je vois en fait les difficultés qu'il peut avoir ou alors les avantages de ce patient et surtout ses attentes. Pourquoi le patient veut être sous pompe en ambulatoire et je vais l'accompagner. Donc, je vais me rendre à son domicile une fois, deux fois, trois fois, peut-être 10 fois si ça nécessite 10 formations pour qu'il soit autonome. Une fois que le patient est autonome, je vais contacter le prescripteur pour faire un retour et une date d'hospitalisation va être mise en place pour pouvoir faire une pose de pompe au sein de l'hôpital auquel il est rattaché.
Donc, vous êtes amené à vous rendre à l'hôpital.
Donc, voilà. Donc, en fait, je contacte le patient, je le forme en amont, je l'accompagne à l'hôpital pour pouvoir poser la pompe. Et après, quand le patient est sortant, je me rends à domicile à peu près une fois par mois pour pouvoir faire un recueil de données, pour voir s'il y a une bonne utilisation du matériel, s'il a des difficultés et faire un retour mensuel au prescripteur. Mensuel, c'est ce qui est inscrit dans les textes de loi. Si un patient a besoin d'être vu 2 fois le premier mois parce qu'il pose des difficultés ou parce qu'il a besoin de faire un point, c'est à l'infirmière de se rendre disponible pour pouvoir accompagner le patient. Au bout de quelques temps, le patient est de plus en plus autonome. Donc, du coup, on le voit de manière espacée, 3 mois, en fonction des événements de vie, ou 6 mois. La réglementation, c'est 6 mois. Il faut voir un patient sous pompe tous les 6 mois, minimum.
Donc, en cas de problème, c'est pas vous qui êtes appelé, vous n'avez pas d'astreinte, vous ne faites pas d'intervention.
Si, bien sûr. Donc, nous avons des astreintes. Donc, comme on travaille, comme toutes les infirmières, sous prescription médicale, si un patient m'appelle, par exemple, pour un problème, je fais des hypoglycémies, etc., je me rends à son domicile, je fais un recueil de données, on essaye de voir pourquoi. Est-ce que c'est des injections de bolus qui ne sont pas adaptées au repas du patient? Est-ce que c'est du sport? On essaye de savoir pourquoi il fait des hypoglycémies répétées et on fait un retour au prescripteur. Et c'est le prescripteur qui nous dit de changer les doses dans la pompe, en fait. Du coup, le patient le fait de manière autonome après avoir eu un recueil de données de notre part.
Vous exercez donc ce métier à plein temps. Et oui. Est-ce que vous travaillez le week-end aussi pour les installations de pompes?
Alors, pour les installations de pompes, en général, sauf si c'est des découvertes de diabète en pédiatrie, il n'y a pas trop d'urgence. En général, on travaille de manière plutôt programmée pour qu'on ait bien le temps de s'adapter à chaque patient pour qu'il soit dans un confort. De toute façon, avant la pompe, le patient est sous stylo d'insuline rapide et lente. Donc, il n'y a pas d'urgence. En ce qui concerne les astreintes, nous avons une astreinte toutes les 7 semaines à peu près. Nous sommes d'astreinte 7 jours sur 7, 24-24. Donc, s'il y a un problème de matériel technique, une pompe qui tombe en panne, nous le dépannons. S'il y a un problème plus d'ordre de dosage, dans ce cas-là, on peut appeler le centre référent du patient pour qu'il puisse adapter les doses ou la posologie. Sachant que les patients sortent de l'hôpital avec des protocoles d'hyperglycémie, d'hypoglycémie. Donc, ils sont très autonomes là-dessus.
D'accord, merci pour toutes ces infos. Au niveau de votre métier, vous nous parlez que vous alliez un peu le savoir technique et la partie accompagnement éducatif. Concrètement, du côté technique, est-ce que vous réalisez du coup les soins comme les pompes à insuline, mais est-ce que vous posez aussi des capteurs du type les freestyle, tout ça?
Alors, donc du coup,
Pour nos auditeurs, les freestyle?
Alors, le freestyle, c'est un capteur de glycémie. Il en existe d'autres, hein, le freestyle étant le plus connu, on va dire. Donc, en fait, ça, c'est délivré par les pharmacies. Ce n'est pas comme la pompe et les consommables de pompe. Donc, tout à fait, effectivement, on peut aider le patient à se suivre, à poser le capteur, sachant qu'une infirmière prestataire, ce n'est pas une infirmière qui fait des soins techniques à la maison. Ce n'est pas du tout une infirmière libérale. C'est une infirmière qui va rendre un patient autonome pour que lui puisse poser son cathéter, faire les soins et ce qu'il demande. Donc l'infirmière va plutôt l'éduquer. Donc au début, c'est sûr qu'en l'éduquant, on manipule avec lui, mais l'infirmière prestataire ne fait plus de soins techniques. Elle est vraiment dans l'autonomisation, l'éducation du patient. S'il y a besoin de faire intervenir une infirmière libérale parce que le patient a du mal à être autonome sur la pompe, on va vraiment aller dans un cabinet pour former l'infirmière sur la pompe et c'est elle qui ira faire les injections.
D'accord. Et au niveau de l'éducation thérapeutique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les activités que vous faites, les actions qui sont mises en place ?
Alors, en fait, au sein de mon prestataire, nous avons la chance de travailler avec une diététicienne. Donc, en fait, après le recueil de données, le patient, on sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il souhaite faire, quelle utilisation il veut avoir de la pompe. Parce qu'on peut avoir une utilisation basique et on peut aussi avoir une utilisation avec des fonctions avancées de la pompe. En fonction de ses demandes, je peux le faire intervenir, sous réserve d'une prescription également, une diététicienne qui lui apprendra à compter ses glucides s'il le souhaite, à partir vers des systèmes plus autonomes de pompe à insuline qui communique avec un capteur, ce qui permet en fait d'avoir une automatisation du système et d'avoir une boucle fermée. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans ce monde. Donc du coup, c'est vraiment en fonction du patient. Il faut vraiment faire un recueil de données précis pour savoir avec le patient jusque où il veut aller, jusque où il souhaite aller. Et du coup, ça adapte un petit peu nos points thérapeutiques, en fait, vus pendant les suivis.
D'accord. Vous parlez que les diététiciens entrent en action. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui rentrent en collaboration ?
Alors, au sein du prestataire, il y a diététicienne et infirmière. Globalement, au sein du diabète, il va y avoir quand même d'autres paramètres qui vont entrer en compte. Avec, par exemple, je sais qu'au CHR de Lille, ils font un programme EuraSanté. Donc, c'est un programme sportif. Donc, il y a des professeurs de sport qui sont adaptés au diabète et des séances encadrées pour voir ce que le sport provoque sur les variations glycémiques. Et du coup, ça permet aux patients d'être encadrés par l'infirmière, par la diabétologue, par la diététicienne s'ils le souhaitent, par l'éducateur sportif, et également par peut-être un psychologue, parce que comme c'est une maladie chronique, c'est vrai que le psychologue est très demandé. Donc au sein des centres initiateurs, il y a toujours un psychologue pour l'acceptation de la maladie.
Vous êtes combien d'employés dans cette entreprise ?
Alors, on est pas mal d'employés dans cette entreprise, on est plus de 50. Au sein de l'activité diabète, nous sommes 14, donc 14 infirmières dédiées au diabète, avec quelques infirmières qui ont une fonction commerciale. C'est-à-dire, c'est les infirmières qui vont, tout en ayant un nombre de patients à prendre en charge également, moindre, développer l'activité commerciale. Donc, ils vont aller à la rencontre des centres, des diabétologues, pour expliquer comment le prestataire travaille, notre façon de travailler, ce qu'on peut proposer aux patients, la diététicienne, le suivi, comment le suivi peut être fait, qu'il est adaptable aux patients, qu'on ne se cantonne pas à un suivi de 6 mois si le patient en a besoin tous les mois, et vraiment un petit peu exposer nos comptes rendus pour avoir une valeur ajoutée.
Vous collaborez avec des prestataires en particulier des fournisseurs, des laboratoires
Alors, tous les prestataires. Alors, donc, du coup, les prestataires ont les mêmes obligations, c'est-à-dire mettre un patient sous pompe, le suivre et le suivre à minima tous les 6 mois. Je sais que j'ai beaucoup de mes patients que je ne vois pas que tous les 6 mois, puisqu'il y a des événements de vie qui font que 6 mois, c'est trop long. Il faut être accompagné plus souvent. Donc, ça, c'est vraiment à l'infirmière de faire preuve de bon sens et de savoir quand le patient a besoin. et savoir quand prévoir les rendez-vous pour que ce soit un patient qui reste cadré. On a la chance en France de pouvoir avoir des infirmières et des prestataires dédiés. Donc, on fournit le matériel. Donc, en fait, on a un visu sur l'utilisation de la pompe au quotidien pour que le patient reste dans les clous, entre guillemets. Par rapport à ça, du coup, je reprends ta question. Laurent, redis-moi ta question.
Ma question était... je ne l'ai plus en tête. Je suis désolé.
La question...
Je pensais à la prochaine question.
Je m'en souviens plus non plus. Bon, je vais me permettre de rebondir alors sur une prochaine question. Et Laurent, quand ça vous revient, n'hésitez pas à reprendre la main. Donc, c'est un sujet tout autre, mais est-ce que entre ces prestations, vous avez des transmissions à faire entre vous, entre collègues ou auprès de la hiérarchie ?
Tout à fait. On travaille avec des plateformes sécurisées. Donc, tous nos comptes rendus sont accessibles par nos collègues. Quand je suis en vacances, il faut forcément que les collègues puissent avoir un compte rendu détaillé pour prendre en charge mes patients. Et également sur l'astreinte. Donc, c'est très important d'avoir une cohésion d'équipe et vraiment une plateforme avec les comptes rendus détaillés qui sont aussi accessibles aux centres prescripteurs. Donc, dans les hôpitaux, ils ont les comptes rendus également. Je me souviens de la question de Laurent.
Moi aussi, je suis désolée de ce trou.
Désolée de ce trou. Donc, c'était est-ce que je collaborais avec des laboratoires ?
Des laboratoires, des constructeurs qui essayent.
Donc, tous les prestataires en France qui sont forcément concurrents aux miens, ont accès aux mêmes pompes. Donc, en fait, on travaille avec tous les laboratoires de pompes. C'est comme avec les pansements. Je pense qu'il y a plein de marques et plein de labos de pansements. Et nous, on travaille, on met sur le marché, on propose aux patients tous les pompes qui sont sur le marché français. Donc, on travaille avec, pour répondre à ta question, avec tous les constructeurs de pompes.
Si j'avais une pompe et que ça faisait 10 ans que je l'avais, je serais toujours suivi, même si j'étais totalement autonome.
Oui, même 20 ans, même 30 ans, puisque en fait, le rôle de l'infirmière prestataire, c'est aussi de... Le monde évolue, et je pense que l'infirmière prestataire, tous les patients ne sont pas connectés sur les réseaux sociaux, n'ont pas les tenants et les aboutissants, donc je pense que c'est à l'infirmière prestataire de pouvoir dire aux patients, votre pompe commence à devenir obsolète, est-ce qu'avec le prescripteur, il ne faudrait pas passer sur un modèle plus récent, plus évolué ou avec les mêmes fonctions, mais au moins plus récent. Et du coup, effectivement, même après 10-20 ans de pompe, il y a toujours des évolutions, surtout dans le monde du diabète. Donc, l'infirmière est là pour apporter les informations et l'accompagner.
Ces pompes sont arrivées quand sur le marché ?
Les pompes sont arrivées il y a très, très longtemps sur le marché. De mon temps, en 2008, il y en avait déjà, mais c'était des pompes avec des fonctions beaucoup plus basiques. Les boucles fermées, donc ce que j'appelle boucles fermées, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va être au plus proche de la fonction du pancréas. Donc là, c'est arrivé ces 5 dernières années.
Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur les deux grands types de diabète que nos auditeurs comprennent bien les enjeux de ton métier ?
Donc, du coup, il y a les diabétiques de type 1. Donc, c'est souvent des patients qui sont tout de suite insulinodépendants. Donc, c'est des découvertes de diabète précoce. Alors, précoce, ça peut être 1 an, 6 mois, 2 ans. Maintenant, il y a aussi des découvertes de diabète de type 1 qui peuvent se faire à 15, 20, 25 ans, 30 ans. Ça a évolué. Donc, ça, c'est vraiment le diabète qui nécessite de l'insuline dès le début du traitement. Ensuite, il y a les diabétiques de type 2, qui sont des diabètes qui viennent un peu plus tardivement, qui peuvent être contrôlés tout au moins au début par des médicaments PEROS, en fait, un traitement PEROS. Et après, effectivement, si le traitement n'est plus suffisant, venir à la pompe à insuline aussi, et surtout par une alimentation équilibrée et l'activité physique régulière.
Je vais y revenir sur le fait, vous avez dit que vous prenez en charge les patients sur 10 ans, 20 ans, mais est-ce que l'adhésion thérapeutique reste la même du coup ? Les patients, ils sont toujours...
Très bonne question. Donc en fait, c'est vrai que certains patients en maladie chronique, parfois, il y a des zones de risque de décrochage. Et c'est là justement que l'infirmière prestataire est importante, puisque si le patient, ça fait 10 ans, il a l'habitude... On a espacé le suivi à 6 mois. Peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, il y aura un petit peu moins de suivi. Et c'est vraiment à l'infirmière de dire, là, ça fait 6 mois. on voit que les résultats ne sont pas très bons, ce qu'on peut faire, c'est vraiment reproposer un rendez-vous dans 3 mois, en fait, pour éviter aux patients d'être, entre guillemets, dans la nature et d'avoir un suivi qui n'est pas adapté à ce qu'il a besoin en cette période, qui peut être plus difficile pour le patient.
D'accord. Et en temps normal, au début, il est vu régulièrement, toutes les semaines ?
Au début, en fait, à partir du moment où j'ai une date d'hospitalisation, par exemple le 10 novembre, j'ai rencontré une patiente la semaine dernière pour la première fois. Avec ce qu'on a travaillé pendant la formation, on peut établir un plan de formation. Par exemple, pour cette formation, cette patiente, je me suis dit 4 formations, ça sera suffisant pour elle, puisque je pense qu'elle va être autonome très vite et la motivation et la demande est là. Donc, du coup, je vais l'avoir 4 fois avant. Elle va aller à l'hôpital le 10 novembre, par exemple. Et ensuite, elle va ressortir de l'hôpital avec sa pompe à insuline à la maison. Je vais la revoir à peu près 10-15 jours après, sachant que dans l'intervalle, je reste disponible s'il y a des questions tout au début. Et après, je vais faire un suivi par mois en l'absence de problèmes particuliers. L'infirmière prestataire, elle doit vraiment savoir adapter son planning. C'est comme aux urgences, en fait, hein, prioriser les patients, prioriser ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent, et savoir avancer le rendez-vous quand ça nécessite.
Au niveau de l'évolution des pompes, je suppose qu'elles se miniaturisent de plus en plus, ou elles ont plus d'autonomie ?
Elles se miniaturisent, oui, effectivement, depuis toutes ces années. Il y a une grosse évolution, c'est qu'en fait, les pompes à insuline, avant, étaient avec une tubulure, du coup, donc un cathéter, une tubulure et la pompe qui était portée sur le patient. On a vu arriver, parce que la tubulure était un frein pour les patients, d'avoir toujours la tubulure connectée, on a vu arriver les pompes patch. Donc effectivement, c'est une pompe qui est plus gros qu'un capteur, mais en fait, il n'y a pas la tubulure, ce qui séduit pas mal de patients, le fait de ne pas avoir ce fil.
Et au niveau de la restriction de la tubulure avec les patients, il y a aussi la différence d'âge qui doit jouer. Au niveau des adolescents et des personnes âgées, comment vous faites pour...
Alors, au niveau des adolescents, c'est vrai que j'ai beaucoup d'adolescents qui souhaitent une pompe sans fil, sans tubulure, pour ne pas être gênés dans les activités de la vie quotidienne et aussi pour que la pompe se perçoit moins de l'extérieur sous les vêtements. En fait, il y a 2 types de patients. Il faut vraiment savoir, et là aussi, le recueil de données est très important, il faut vraiment savoir ce que le patient cherche. Est-ce qu'il cherche une pompe vraiment discrète? Il y a certains patients qui vont dire, bah non, en fait, moi, je préfère prendre une pompe avec une tubulure. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier la télécommande pour pouvoir m'injecter, parce que les pompes sans tubulure, il faut une télécommande avec. Donc, ça dépend vraiment du patient. Mais effectivement, chez les petits et chez les adolescents, la pompe sans tubulure est quand même assez demandée. Sachant que pour ce type de pompe, le réservoir, une pompe dure, un cathéter et une pompe dure, est à changer tous les 3 jours, en règle générale. Donc du coup, il faut vraiment avoir une dose totale d'insuline, lente et rapide confondue, inférieure à 60 unités par jour, pour bénéficier d'un type de pompe patch. Pour l'autre type de pompe patch, on a eu un réservoir axé, il y a quelque peu, à un réservoir un peu plus grand, ce qui permet d'inclure plus de patients, en fait.
Et est-ce que les adolescents ont plus d'entretiens, ont des entretiens plus réguliers au niveau de l'éducation, ce qui fait plus lentement, je suppose ?
Alors, les adolescents sont très technophiles, donc c'est un gain de temps au niveau de la formation, puisque, en fait, le tactile, les indications, les applications, tout ça, c'est vite maîtrisé chez les adolescents. Après, le suivi, effectivement, il est plus régulier au début parce qu'il y a mise en place du PAI pour l'école et vraiment gestion des activités sportives, etc. Donc, effectivement, au début, ils sont suivis peut-être un peu plus.
D'accord. Et au niveau de... Dans la globalité des patients, on va dire, est-ce qu'ils ont tous une difficulté qui se rapproche ?
Pas forcément, c'est vraiment très très variable. Il y a des patients qui vont être plus en difficulté sur la manipulation, des personnes un peu plus âgées, qu'il faut vraiment faire les changements, si changement de pompe est nécessaire, le faire de manière très posée, peut-être mettre une infirmière libérale au début pour pouvoir sécuriser le patient. D'autres patients, ils ne vont pas du tout avoir de difficultés au niveau de la pose de la pompe, de la manipulation, mais plus dans la gestion des dosages et de l'insuline injectée par rapport au sport, aux activités. Les difficultés sont vraiment variables d'un patient à un autre.
Est-ce que vous pouvez interagir sur ces pompes à distance ?
Interagir à distance, non, je ne peux pas faire de changement à distance puisque c'est pas faisable et c'est vraiment au patient d'être acteur en fait de sa prise en charge. Donc il y a toujours, même si le patient fait un changement, forcément c'est le patient qui le fait de manière autonome, c'est l'infirmière qui va l'aider à le faire mais sous prescription médicale. Donc c'est vraiment c'est pas possible. En revanche, ce qui est possible de faire pour les patients qui sont peu disponibles parfois ou pas toujours dans la région. Par exemple, ce midi, un patient qui me dit « je suis à Paris, je veux maintenir mon suivi puisque c'est important ». Et ça a été développé avec le Covid pour ne perdre aucun patient de vue. C'est le téléchargement des données sur des plateformes. Donc en fait, à distance, si les patients sont autonomes, on peut voir les données de glycémie chaque jour et les injections d'insuline et le port de pompe qui est fait. Ça, on peut le voir à distance et pouvoir maintenir un suivi de qualité à distance en visio. Mais il faut que le patient soit autonome pour la visio, il faut que le patient soit apte à télécharger les données. Mais ça, c'est le rôle aussi de l'infirmière prestataire, de l'amener tout doucement vers un téléchargement autonome des données.
Mais sinon, l'usager, le patient fonctionne avec son téléphone pour interagir avec sa pompe ?
Non, il n'y a qu'une pompe qui permet, une pompe patch qui permet en fait effectivement une application est connectée à la pompe patch et le patient peut injecter ses doses d'insuline avec son téléphone. Il n'y a qu'une pompe sur le marché qui permet cela. Le reste se fait par des boîtiers ou alors quand c'est en système de boucle fermée, il y a aussi un autre modèle de pompe qui permet de faire quelques actions sur la pompe via un téléphone portable. Sinon, c'est télécommande ou la pompe directement, en fait.
Sinon, c'est juste des lecteurs, c'est ça ?
Sinon, c'est... les lecteurs de glycémie, en fait, traditionnels, vont être très peu utilisés puisque les patients scannent leurs capteurs de plus en plus avec les téléphones. Mais en fait, ça dépend si le système est relié à une pompe ou s'il n'est pas relié à une pompe, en fait. Si le système est relié à une pompe, il pourra avoir ses glycémies sur son téléphone. Ça dépend vraiment des modèles. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles. Et du coup, il y a des applications qui permettent juste de voir les données. Il y a des applications qui permettent vraiment de faire fonctionner le système.
Alors, j'ai préparé un petit peu cette émission. Et j'ai lu un article qui disait que la dernière tendance des sportifs... c'est celle qui consiste à s'appareiller de lecteurs glycémiques pour améliorer leur performance.
Ah oui, j'ai vu. Alors, c'est vrai qu'on voit passer tout et n'importe quoi parfois sur Internet. Donc, je n'ai pas. En fait, je pense que les sportifs, ils utilisent ça pour pouvoir gérer peut-être les prises alimentaires au cours d'un effort de longue durée comme marathon, tout ça. Donc, en fait, ce qu'ils vont voir, c'est l'évolution de la glycémie. Quand la glycémie est en baisse, les performances sportives baissent. Donc peut-être qu'ils, je sais pas ce qu'ils font exactement, mais peut-être qu'ils mettent des alarmes pour pouvoir voir quand leur taux descend, pour pouvoir anticiper cette descente avec une prise alimentaire et pouvoir rester toujours dans la tendance pour être performant sur le long terme.
J'interagis avec ce que Laurent dit. Au niveau des évolutions, est-ce que vous êtes libre de développer de nouveaux projets ou des outils éducatifs autour de...
Nous avons développé. Alors nous, on était plus sur le développement des outils éducatifs pour les centres. Il y a beaucoup de pompes, il y a beaucoup de types de cathéters et beaucoup de boucles fermées, c'est-à-dire de systèmes autonomes. Du coup, nous, on a développé des outils qui permettent de voir comment les algorithmes fonctionnent pour comparer d'une pompe à l'autre. Donc, on était vraiment plus sur le développement en fait du matériel possible et pour bien orienter le patient dans son choix de départ.
D'accord. Et du coup, au niveau de ce matériel qui évolue, est-ce que ça peut faire peur à certains patients, surtout au niveau des personnes âgées, je suppose ?
Oui, oui, ça fait peur. Mais encore une fois, le rôle de l'infirmière prestataire, c'est encore une fois de l'éducation, rassurer. Et si changement, malheureusement, on a eu des périodes où certaines pompes ne se fabriquaient plus. Du coup, les personnes âgées qui avaient l'habitude avec leur pompe doivent par obligation changer, sinon c'est repartir sur des stylos. Donc du coup, l'infirmière prestataire, il faut vraiment qu'elle soit à l'écoute du patient pour pouvoir faire le changement tout doucement. Et je pense qu'avec un bon accompagnement, une infirmière libérale ponctuellement au besoin, les changements se font. Parce qu'il y a toujours des patients qui nous disent « Oui, mais moi, avec la pompe, j'y arriverai jamais, ça me paraît trop compliqué. » C'est à l'infirmière de ralentir et de s'adapter pour pouvoir faire une chose à la fois et ça fonctionne.
D'accord, mais pour tout cela, il faut que vous soyez à l'aise. Est-ce que ça vous facilite justement l'évolution de ce matériel ou est-ce que des fois c'est un frein pour vous ?
Alors, c'est jamais un frein l'évolution pour nous parce qu'en fait, en tant qu'infirmière prestataire, je pense que... Moi, je trouve ça très moteur de pouvoir...
C'est ça qui doit être passionnant. En fait.
Ouais, c'est très moteur de pouvoir se dire... Ça fait depuis 2008 que je fais du diabète. J'ai fait à l'hôpital, j'ai fait en prestation et en fait, tout change tout le temps, souvent. Et en fait, du coup, ça stimule beaucoup l'apprentissage et ce qui permet à l'infirmière de ne pas se cantonner à la même chose et à un travail rébarbatif, en fait. On évolue avec, on évolue avec les patients et l'infirmière se forme toujours. Donc, c'est très, très moteur pour ma part.
Je vous invite désormais à une pause musicale.
Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life.
Big city life, me try to forget my pressure eyes up no matter how hard me try. Big city life.
Big city life, in my heart have no base. And right now, Babylon.
Nous sommes de retour sur FL Radio en compagnie de Gaëlle pour continuer à découvrir la fonction d'infirmière conseil.
Donc moi, je vais vous parler un peu des idées reçues, des représentations de chacun, parce que je pense qu'il est important de revenir là-dessus pour mieux comprendre la réalité de la maladie. On dit souvent que les patients diabétiques n'ont plus le droit de prendre de sucre. Vous en pensez quoi ?
Je pense qu'il y a une réelle évolution du diabète par rapport au diabète de type 1, par rapport à il y a 20 ans, par exemple. Les enfants qui sont découverts diabétiques maintenant, ils n'ont plus comme avant de régime diabétique. En fait, le régime diabétique, ça va être simplement un régime équilibré, comme nous, en fait. Hein, si on fait un écart ou si on se fait plaisir une semaine, on essaye de lisser sur la semaine, en fait, les glucides. Et je pense qu'en fait, c'est la maladie. Les technologies d'aujourd'hui permettent à l'enfant de pouvoir faire comme les autres. Donc, quand une maman me dit « Ah oui, mais mon fils ne pourra pas aller à l'anniversaire de son copain puisqu'il est diabétique », bah si, il va y aller, il va manger le même gâteau que le copain. Et en fait, la maman et l'équipe va essayer de définir des doses adaptées aux glucides en fait, ingérés pour permettre à l'enfant de pouvoir être comme les autres enfants et pas être stigmatisé. Donc, il n'y a plus de régime diabétique. Je pense que même à l'heure actuelle, un enfant qui n'a pas de diabète ne boit pas du coca sucré toute la journée. Voilà, il faut vraiment lisser et rester dans l'équilibre global, lisser sur une semaine. Les écarts font partie de la vie et font aussi partie de la prise en charge du patient et vraiment pour que le patient reste adhéré à être dans l'action, dans la prise en charge de son diabète, il ne faut pas non plus qu'il ait plein de restrictions. En fait. Il faut qu'il sache gérer ses écarts et pouvoir s'adapter au mieux.
Donc, une personne diabétique, ce n'est pas se restreindre sur son alimentation.
Une personne diabétique, c'est savoir, en fonction de son alimentation, les doses à adapter. Voilà, c'est simple. C'est une personne qui va faire un écart, qui va faire une dose en fonction de cet écart, qui, le lendemain, va avoir un repas standard et faire une dose standard.
D'accord. Et au niveau de votre rôle, est-ce que ça consiste à toujours répéter les mêmes choses ? Ou ça dépend des personnes ?
Ça dépend des personnes. Après, chez certains patients, si le problème est récurrent, c'est par exemple l'alimentation, c'est sûr qu'on va plus axer notre démarche d'éducation thérapeutique sur l'alimentation et l'équilibre alimentaire, sans se mettre non plus dans... Parce que les centres hospitaliers n'ont plus une démarche non plus de restriction. Mais on va se mettre sur un équilibre, comme je dis aux patients, c'est un équilibre global, en fait, le régime diabétique. Donc... vraiment se mettre là-dessus. Il y a d'autres patients, ils ont un équilibre parfait, mais peut-être un petit peu une sédentarité. Donc, c'est travailler sur peut-être une activité physique, les inciter. Il y a d'autres patients, ils vont être au contraire très sportifs et vont avoir une grosse problématique avec la gestion de la baisse du taux de sucre pendant le sport. Et là, on va vraiment travailler sur la fonction de la pompe et la gestion de l'activité sportive. Donc, C'est patient dépendant, c'est moment dépendant et ça ne sera pas toujours les mêmes problématiques.
Ok, et ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne peut pas faire de sport.
Il faut faire du sport. Tout le monde doit faire du sport. Donc, les patients diabétiques n'ont pas de restrictions par rapport au sport. Donc, il y a juste des adaptations et en fait, une connaissance du sport, ce que le sport va provoquer chez cet enfant-là, puisque c'est enfant dépendant ou adulte dépendant. Tous les sports ne provoquent pas la même chose chez tous les patients. Et c'est vraiment le patient qui va étudier. Là, j'ai fait tel sport, ça a fait ça. Donc, vraiment, en fait, l'infirmière va aider le patient à définir des conduites à tenir en fonction du sport et de sa réaction qui est personnelle. Donc, du coup, c'est vraiment, il n'y a pas un diabète ou un patient qui se ressemble.
Ça marche. Et les capteurs, ils sont adaptés pour la pratique sportive ?
Alors, les capteurs sont adaptés pour les pratiques sportives, effectivement. On constate de temps en temps un risque. Alors, suivant les capteurs, il y a beaucoup de capteurs. Il y a le freestyle. Il y a d'autres capteurs qui sont sur le marché. Si c'est des enfants de 6 mois, ils ne peuvent pas, par exemple, accéder au freestyle. Il y a d'autres capteurs qui sont faits pour eux parce qu'en fait, les études n'ont pas été faites chez les plus petits. Donc, il y a vraiment des capteurs qui sont adaptés à chaque type de patients. Et par rapport au port de la pompe et du sport, c'est vraiment du bon sens, en fait, savoir que peut-être si le patient va 3 fois par semaine à la piscine, que la pompe n'est pas étanche, va pouvoir retirer sa pompe le temps qu'il fasse du sport et avoir une conduite adaptée quand il se rebranche. Ou alors, c'est une pompe patch qui peut aller dans l'eau. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Donc, vraiment, on va adapter en fonction. Le risque, c'est les décollements, en fait, de capteurs avec l'été, la chaleur ou la piscine. Et là aussi, l'infirmière prestataire est là pour voir s'il y a ce problème, pour pouvoir fournir des interfaces pour pouvoir aider à coller et voir un petit peu les zones possibles pour pouvoir aider le patient à éviter les décollements.
J'ai encore une dernière idée reçue. On a parlé un peu de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez que votre métier est voué à disparaître ?
Alors, très bonne question. Très, très bonne question.
Vous n'y allez pas par 4 chemins. Hein.
Je pense que le métier n'est pas voué à disparaître, que le métier est voué vraiment à évoluer. C'est sûr que quand j'ai pris le poste en 2017, je ne faisais pas du tout la même chose que maintenant. Après, je me dis, malheureusement, il y a toujours des découvertes de diabète, donc toujours des nouveaux patients à former, à rendre autonomes, et toujours des nouvelles technologies. Donc, je me dis, un patient qui a déjà un système autonome, qui a très peu besoin de l'infirmière prestataire, tant mieux pour lui, c'est le but. Il y aura toujours une évolution de produits au niveau des constructeurs qui permettra à l'infirmière prestataire de pouvoir réintervenir auprès du patient pour faire éventuellement une nouvelle éducation, un changement de matériel et poursuivre le suivi.
Finalement, vous voyez combien de patients par jour ?
Combien de patients par jour ? 3-4 en moyenne, sachant qu'à côté, il y a des... ça dépend en fait, hein, parce qu'à côté, on a aussi les nouvelles prises en charge à gérer, mais en suivi standard, on peut voir 3-4 patients, sachant qu'un suivi, c'est à peu près 1h15, hein, le temps qu'on puisse balayer les problématiques de sport, d'alimentation, l'équilibre, aider le patient aussi à comprendre ses glycémies, les problématiques éventuellement de décollement. Donc on est en général... à peu près 1h, 1h15 chez le patient, faire le compte-rendu pour voir le transmettre au médecin prescripteur. Et à côté, il y a les rendez-vous qui vont être plus longs puisque c'est un nouveau rendez-vous, c'est de la formation ou alors les découvertes de diabète qui se font aussi en urgence avec formation des parents, de la nourrice, du centre aéré, les PAI à l'école. Donc.
Vous vous déplacez beaucoup ?
Oui. Oui, on se déplace beaucoup. Donc, moi, j'habite du côté de Carvin et j'ai un secteur qui va de Carvin et qui remonte tout sur Seclin. Je ne sais pas si vous... Seclin, Lille, Lille-Sud, et puis qui remonte jusque Roubaix avec une file active d'environ 90-100 patients. Donc, pas avec la même récurrence. Il y a des patients que je vais voir plus souvent, toutes les semaines, tous les mois. Et il y en a d'autres que je vois tous les 3, 4, 5 mois. Donc, effectivement, on se déplace, on a un large secteur. Donc, c'est une infirmière qui a le secteur en fonction de son lieu d'habitation.
Et le patient que vous suivez depuis le plus longtemps ?
Depuis 2017, il y en a, je suis arrivée, j'ai mis les pompes et je les suis toujours. Donc, c'est des patients, c'est vrai que, par exemple, en 2021, je les voyais tous les 3-4 mois. Ça roulait, c'était standard. Et puis là, avec les nouvelles technologies et les boucles fermées, je suis amenée à voir le patient... un peu plus régulièrement, puisqu'on va retourner à l'hôpital pour pouvoir mettre une boucle fermée avec un algorithme autonome. Donc, je le revois un petit peu plus, je l'accompagne, et puis après, on pourra de nouveau espacer les suivis.
Finalement, vous avez beaucoup d'autonomie dans votre travail, je présume ?
Oui, énormément d'autonomie. On a une coordinatrice qui permet de... En fait, on a une gestion totale de notre planning. On est cadre, en fait, on est infirmière cadre et on a une gestion du planning. Donc, en fait, j'ai une file active, j'ai des patients à voir et en fait, je m'arrange directement avec les patients. On fixe des rendez-vous. Si le patient n'est pas disponible, voilà, il n'y a personne qui fait mon agenda, sauf les rendez-vous en centre hospitalier où, par exemple, on peut être attendu à 7 heures à tel hôpital pour pouvoir mettre en place la pompe. Ça, c'est des impondérables. Mais sinon, le reste du temps, c'est en fonction du patient, de ses congés, de son travail, des horaires de disponibilité. Mais effectivement, on a la chance d'avoir un planning qui est plutôt en autonomie, tout en ayant un point hebdomadaire de suivi du travail.
Alors, je vais revenir sur le concept d'autonomie. Justement, vous en parlez. Donc, c'est large dans votre travail, c'est la principale activité aussi, mais est-ce que vous allez chez les patients avec d'autres professionnels, donc par exemple la diététicienne, mais est-ce qu'il y a d'autres prestataires qui viennent avec vous, les diabétologues ?
Alors, donc du coup, pour très bonne question, donc du coup, on travaille plutôt seul. Le travail en équipe, il est très ponctuel. Hein, on a une équipe qui est soudée avec des échanges. On a le téléphone. Si on a besoin de quelque chose, il y a toujours le mail, etc. On fait des points, des réunions, ce qui est important pour souder une équipe. Mais effectivement, toute la journée, je suis toute seule. Je vais chez les patients en autonomie toute seule avec le patient, ce qui permet aussi une proximité parce qu'on va au domicile. Les diabétologues, c'est des consultations essentiellement à l'hôpital. Donc le diabétologue, quand il reçoit le patient, il voit le patient à un instant T pendant un temps donné. Nous, avec le compte-rendu, on peut plus développer sur la maison, la gestion, vraiment connaître le patient à domicile dans sa vie, ce qui permet vraiment d'être proche du patient. Et effectivement, de temps en temps, on fait les rendez-vous, comme par exemple demain, j'ai la chance d'avoir ma collègue diététicienne qui m'accompagne, ce qui permet au patient d'avoir deux professionnels de santé et d'avoir un suivi de qualité avec un œil infirmier et un regard diététique là-dessus.
Super, merci pour cette réponse complète. Et au niveau de la relation avec les patients, supposant que ce soit le cas, est-ce qu'il y a de la précarité au niveau des patients, que ce soit l'alimentation, l'accès au matériel? Et dans ce cas-là, comment vous réagissez?
Donc du coup, effectivement, on a tout un panel de patients qui reflète effectivement un panel de société. Donc comme je disais, avec des demandes qui ne sont pas les mêmes, des motivations qui ne sont pas les mêmes et effectivement des freins qui ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, j'ai des patients qui m'ont déjà relaté le problème un petit peu de précarité, de manque de, et on essaye de trouver des solutions adaptées pour pouvoir gérer avec lui. C'est pour ça que le prestataire fournit aussi les produits qui coûtent quand même assez cher en pharmacie pour pouvoir faire tenir le matériel, les accessoires. Effectivement, c'est le prestataire qui fournit également, sachant que toute la pompe et les consommables, c'est remboursé, en fait, puisque c'est en ALD. Donc, du coup, tout est remboursé en France. Dans certains pays, pour avoir des patients qui ont déménagé à l'étranger, ils doivent s'acheter la pompe qui peut aller de 500 euros à 3 4 000. S'acheter la pompe et s'acheter également les consommables. Et dans certains pays, en fait, tout se distribue via les pharmacies. Il n'y a pas de prestataire, donc il n'y a pas de suivi, en fait. Pas d'analyse de courbe, pas d'ajustement entre deux, hormis avec le médecin.
D'accord. Donc, si je comprends bien, les patients n'avancent rien du tout au niveau frais.
Les patients n'avancent rien du tout au niveau frais. Tout est pris en charge.
Gaël, une question qui fâche, peut-être. L'idée libérale qui faisait jusqu'à présent trois passages chez un patient pour prendre sa glycémie avec un lecteur à bandelette ne vous en veut pas trop ?
Non, elle me... Non, elle... parce que en fait, je pense qu'il y aura toujours des patients pour tout le monde. Chaque infirmière a son panel de patients. Donc effectivement, les infirmières libérales, en fait, elles ont les patients sous stylo, sous glycémie capillaire. Et effectivement, il y a très peu d'infirmières libérales que je dois solliciter pour prendre en charge un patient sous pompe, hormis pour les enfants dans les collèges, etc., pour checker les injections du midi ou accompagner en fait à l'utilisation de la pompe. Donc effectivement, non, on travaille très bien avec les infirmières libérales.
Est-ce que finalement, elles récupèrent des actes IDE avec l'arrivée de ce nouveau matériel ?
Elles peuvent en récupérer, mais l'idée, c'est quand même l'autonomie du patient. Donc, il y a très peu de patients qui ont besoin d'une infirmière libérale pour pouvoir gérer leur pompe.
Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à une IDE qui voudrait se lancer en tant qu'IDE conseil ?
Alors, je pense que l'infirmière, il faut vraiment qu'elle sache, l'étudiante ou la jeune infirmière, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut se spécialiser? Si elle veut faire que du diabète, effectivement, peut-être partir sur quelques années en hospitalier pour pouvoir se faire la main et avoir les réflexes avant de partir en prestation. Après, dans la prestation, il y a aussi des infirmières de perfusion qui souhaitent que faire de la perfusion, où il y a des prestataires qui proposent de faire et de la perfusion et du diabète. Donc, c'est vraiment Il faut savoir si on veut être polyvalent, si on veut faire les deux ou si on préfère se spécialiser dans un domaine pour devenir experte. Mais effectivement, moi, mon activité tourne autour uniquement du diabète. Donc,
Moi, j'aurais une dernière question à vous poser avant une petite conclusion. Est-ce que ce travail a un impact sur votre vie personnelle, c'est-à-dire le lien avec le diabète, les conséquences? Est-ce que vous, ça vous restreint dans votre vie personnelle? Est-ce que ça vous donne envie de faire attention?
Oui, mais je fais toujours attention. Je fais attention. Je pense que c'est vraiment le désir de d'avoir une vie équilibrée et avoir une alimentation également équilibrée. Donc, c'est vrai qu'en travaillant avec une diététicienne, après, on se rend un petit peu compte de l'indice glycémique et des glucides dans les repas. Mais non, je mange de manière équilibrée et même si j'y pense, je fais les écarts également comme tout le monde.
On voulait vous remercier en tout cas pour ce témoignage riche et éclairant qui nous a permis un peu de mieux comprendre la réalité du métier d'infirmier en diabétologie.
Grand merci à notre invité Gaëlle pour son partage d'expérience et sa passion du soin. Merci à nos intervieweurs en herbe. Restez à l'écoute de Soins Sonores. On continue ensemble dans quelques instants. Ciao, ciao!
I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. I'm one step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a let up. All I need it, life potions. Drugs are just an hour away. Come on it, electronic, a polyphonic roster to the mortars. On fire, messiah for the animals. Ah, oh come on, we got our backs to the wall. I'm on it, get on it. The trips are on fire.